enchaîner avec Audrey.
Du coup, je vais changer d'échelle. Je vais vous emmener du global au local. Et pour vous parler d'un petit village... ah oui, je peux enlever mon masque, merci. Pour vous parler d'un petit village qui se situe dans les Vosges. Et mon objectif, c'est de questionner des mécanismes et des processus plus généraux, plus globaux, sur la résistance et les utopies. Alors, je vais vous parler de chez Narcisse. Alors, certains sont déjà venus chez Narcisse. Donc, c'est un débit de boisson et une salle de concert qui se situe au Val d'Ajol. Donc, le Val d'Ajol, c'est un petit village au milieu des Vosges. Et donc, un village de 4000 habitants. Et chez Narcisse, c'est un bistrot donc, qui est accompagné d'une salle de concert de 550 places, pour vous donner un petit peu une idée de la taille, dont la particularité est une programmation punk rock. Alors, quand j'ai commencé mon étude ethnographique chez Narcisse, en 2017, la question qui m'animait, c'était de comprendre l'apparition d'un espace punk en milieu rural, alors que ce mouvement est quand même plutôt et avant tout urbain. Et les observations que j'ai pu mener au quotidien m'ont amené à questionner petit à petit les spécificités de cet espace et les modalités du vivre ensemble autrement, telles que peut les donner à voir chez Narcisse. Et pour vous emmener avec moi dans ce lieu, je voulais vous proposer un extrait de carnet de terrain pour vous montrer un petit peu ce qui s'y passe et montrer après comment on peut parler, ou pas d'ailleurs, de résistance et d'utopie. Donc imaginez un dimanche en fin d'après-midi, les concerts chez Narcisse ont toujours lieu le dimanche soir. Au Val d'Ajol, cette journée est particulière. Outre le fait qu'il s'agisse d'un soir de concert, c'est aussi un groupe que les habitués attendent depuis longtemps qui doit se produire chez Narcisse. Ce grand nom de la scène punk rock fait son retour sur scène en commençant par de petites salles et il n'a encore jamais joué ici. Les réservations sont complètes et les participants sont impatients. Lorsque les premiers accords se font entendre, la salle se met à bouger comme à son habitude. Un peu plus tard, le chanteur descend dans la fosse tel que cela peut se faire régulièrement ici. Il refuse cependant de se laisser approcher trop près, signifiant à ceux présents alentour de ne pas le toucher. Ce faisant, il brise la dynamique habituelle de la fosse, mais cela n'empêche pas les habitués de prendre part au concert et d'en profiter. Après quelques accords, il remonte sur scène. À la fin de la soirée, si les participants ont apprécié l'ambiance générale, les commentaires vont toutefois bon train. Mais pour qui se prend-il ? En parlant du chanteur. Les critiques exprimées font écho à l'attitude du groupe, qui ne semble pas avoir respecté les usages de ce lieu. Ce n'est pas comme ça ici. Autrement dit, l'éloignement physique et symbolique instauré ce soir-là entre les musiciens et le public rompt avec les façons de faire habituelles, car les groupes ne mettent généralement pas de distance, ou en tout cas pas autant, avec les spectateurs. Se joue également en creux ici l'opposition entre rural et urbain, certains habitués ayant eu le sentiment, je cite, d'être pris pour des bouseux. Ce groupe n'a ainsi pas respecté le contrat tacite en vigueur chez Narcisse, qui met l'accent sur la dimension familiale des relations entre le public et les musiciens. De cet exemple découle l'idée que jouer chez Narcisse, ce n'est pas se produire n'importe où. En général, les musiciens connaissent l'histoire du lieu et ont en tête que, je cite, « jouer ici, ça se mérite », comme le rappelleront des habitués à la fin du concert que je viens de vous évoquer. Donc, de la même manière, les visiteurs ne viennent pas là par hasard. Et au cours du temps que j'ai pu passer sur place, j'ai observé à plusieurs reprises des visiteurs de passage qui venaient pour la première fois au bar et qui demandaient à visiter la salle de concert, car chez Narcisse pardon, est connu en France pour être un haut lieu de la culture punk. Donc, afin de saisir le fonctionnement de ce site, j'ai mis en place donc, depuis 2017 une démarche ethnographique à visée monographique qui est composée d'observations participantes durant les soirs de concert, mais aussi lors du temps quotidien au bistrot. Donc, les soirs de concert, c'est 6 à 8 concerts par an plus un festival. Hein, donc, ça reste relativement exceptionnel dans le temps quotidien. Et j'ai complété évidemment ce terrain par des entretiens semi-directifs avec les acteurs du lieu, musiciens, habitués, bénévoles, et par un travail d'archivage qui est toujours en cours des archives du lieu et notamment des affiches de groupes qui se sont produits sur place. Alors, cet espace est double, c'est à la fois un débit de boisson et une salle de concert, et il invite à saisir les manières dont un collectif met en lumière la culture punk en plein milieu d'un village vosgien. Il faut bien imaginer qu'on est quand même dans un tout petit village au milieu des Vosges et que l'arrivée du punk chez Narcisse dans les années, au milieu des années 80, début des années 90, n'allait pas de soi. Et le bistrot, que je vous ai mis des images, hein, le bistrot que vous voyez ici est avant tout une aire de vie, et la salle de concert apparaît comme une réponse à la musique mainstream et aux salles de concert labellisées SMAC, donc les scènes de musique actuelles. Voilà. Donc chez Narcisse se laisse deviner des formes d'expérimentation sociale, et ce que je voudrais questionner ici, c'est comment ces expérimentations sociales favorisent des alternatives à un ordre existant, autrement dit des utopies, au sens que Ricoeur peut donner à ce terme. Concrète ou matérielle, l'utopie est avant tout un projet qui est ici associé à un espace qui vise une transformation de l'existant, et c'est dans ce contexte, d'une utopie mise en place, mise en acte, qu'il est possible de s'interroger sur cet espace double de chez Narcisse, à la fois lieu de vie et lieu d'expression, d'expérience utopique. Alors, ces utopies peuvent être éphémères, donc elles ne durent pas, elles sont aussi partielles, je vais vous montrer, il y a des limites, hein, évidemment, l'utopie, même concrète, n'est jamais réalisée complètement, et elles cherchent avant tout, ces utopies, à être des réponses face à un ordre établi, que cet ordre soit politique, économique, culturel, voire temporel. Et donc, ce que je voudrais vous présenter ici, ce sont des fragments d'utopie que j'ai conceptualisés autour de deux formes. Une forme d'utopie qui s'inscrit plutôt dans le temps long et le temps quotidien du bistrot, du débit de boisson, et une utopie plus éphémère qu'on voit apparaître lors des temps festifs des soirées. Alors, tout d'abord, petite historique rapide de chez Narcisse pour que vous compreniez comment tout ça a commencé. Donc, on est en 1892. Et Alfred Collot ouvre un débit de boisson à côté de son entreprise de maréchalerie. Au milieu des années 1930, son fils Narcisse, qui a donné son nom aujourd'hui au lieu, en reprend la gestion. S'ajoute alors au bistrot et à la maréchalerie un service de pompe funèbre qui avait pour slogan « On vous accompagne jusqu'au bout ». Et donc se laisse deviner d'emblée une forme de dérision générale associée à ce lieu. Parallèlement, un cinéma est construit dans le fond du jardin, qui est aujourd'hui, ce cinéma est devenu la salle de concert, et en 1942, en pleine guerre, Narcisse programme le fils Lucrèce Borgia, et sur l'affiche que vous voyez ici, l'héroïne arbore une tenue décolletée, qui pour l'époque interpelle. Cette histoire aurait pu s'arrêter là si le curé du Val d'Ajol ne possédait pas lui aussi un cinéma. Percevant la concurrence, il déclare à la fin d'une messe que Narcisse est le cinéma du diable, puisqu'y sont programmés des films pornographiques. Les choses s'enveniment et le curé finit par dénoncer le bistrotier à la commandant Tour au prétexte que celui-ci est communiste et résistant. Narcisse échappe d'ailleurs de justesse à la déportation. Alors de ce récit découle le fait qu'aujourd'hui encore, les petits-enfants de Narcisse qui pilotent ce lieu, hein, donc c'est une histoire familiale, se plaisent à accueillir des groupes punks qui remettent en question l'ordre moral catholique. Chez Narcisse, la revendication d'une culture des marges qui s'oppose aux logiques sociopolitiques en vigueur est donc apparue avec les concerts punks, mais elle avait déjà des prémices auparavant. Et cette contestation d'un système hégémonique et ce désir de penser et d'agir autrement à côté est énoncé dans l'histoire même du lieu. Donc cette histoire est un outil narratif qui permet de se positionner à la marge d'un ordre moral historiquement situé, tout en mettant l'accent sur l'ancrage politique rouge de chez Narcisse. Dans les années 80, Stéphanie, donc la génération précédente de celle d'avant, décide d'utiliser le cinéma à l'abandon pour en faire une salle de concert. Cette transformation résulte d'une envie de ce groupe de proposer un autre cadre festif que celui offert par les discothèques. Vous imaginez, on est dans un village, l'offre culturelle est relativement réduite, tout ce qui est à disposition, c'est les discothèques. Il se trouve que ce collectif d'amis n'aime pas la musique des discothèques, et donc ils ont une envie d'indépendance dans la programmation musicale. Et les premiers groupes qui se produisent sont locaux, et ce sont leurs amis qui sont dans la mouvance punk rock. Donc chez Narcisse se raconte en image aussi dans la salle de concert, je vous ai mis une photo là, puisque toutes les affiches des groupes qui se sont produits sur place témoignent de la mémoire du lieu et de l'histoire punk, entre guillemets, du lieu. C'est un attachement à la mémoire qui est assez fort et qui est commenté hein, par les habitués. J'y étais, ceux-là je les ai vus, j'étais à ce concert, etc. Donc ces mises en scène, grâce aux images et aux récits, révèlent la construction progressive de l'histoire narcissienne par les propriétaires comme par les habitués et la volonté de mettre l'accent, même a posteriori, sur une dimension contestataire. Il y a donc une réécriture hein, aussi de l'histoire. Donc le récit actuel présente une histoire retravaillée au fil du temps qui met en lumière les événements qui ont permis une rupture avec l'offre culturelle proposée et qui en même temps passe sous silence certains autres événements. Donc cette narration rappelle une volonté de construire une offre culturelle alternative en milieu rural, et ici la formalisation première de l'utopie s'exprime dans sa fonction de rupture. Être à la marge devient une manière de proposer d'autres façons de faire et la possibilité d'une construction collective. Chez Narcisse est en effet modelé par différents acteurs, les habitués, les bénévoles, les musiciens, les clients du bistrot qui participent à faire vivre ce lieu. Et donc il y a une forte dimension intergénérationnelle puisque tous finissent plus ou moins par se connaître et qui crée un monde social pour permettre la réalisation d'un concert, la poursuite ne serait-ce que du bistrot, etc., etc. Donc l'idée c'est d'aller construire ensemble un espace villageois qui est aussi un espace de sociabilité et un lieu de rencontre intergénérationnelle. Et vous trouvez dans le bar au même moment les habitués qui viennent prendre un café le dimanche matin, les sportifs du club de basket local qui ont fait chez Narcisse leur QG, les familles avec leurs enfants venus prendre un chocolat, etc., etc. Et donc un fort sentiment d'appartenance est exprimé et des valeurs permettant d'identifier le lieu sont transmises de génération en génération, mises en exergue par l'équipe actuelle et réappropriées par les habitués qui les véhiculent à leur tour. Et c'était le sens du titre que j'avais proposé. Ça fait partie de l'accueil, c'est ce que dit le gérant actuel, ça fait partie de l'accueil et de la chaleur qu'on a envie de partager, tout simplement accueillir les gens avec le sourire, ça fait partie de l'ambiance. Donc cette volonté d'être ensemble autrement fait partie des ingrédients des expériences utopiques mises en acte au quotidien, et dès lors l'utopie peut être appréhendée comme une alternative qui conduit à remettre en question des formes de pouvoir et des idéologies instituées. Il semble ainsi que chez Narcisse offre une alternative à une société qui cloisonne par génération, par classe sociale, par lieu de vie, et l'utopie collective qui est formée en ce lieu serait ainsi une manière de résister à ce compartimentage, du moins pour un temps donné. Et pour mettre en œuvre ces façons de faire, les narcissiens, tels qu'ils se nomment entre eux aussi, vont puiser dans le répertoire punk, réutilisant à leur compte évidemment le do-it-yourself. Alors, l'inscription dans une généalogie et une histoire familiale de la résistance politique, hein, Narcisse était communiste et résistant, et religieuse à travers l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, contribue à produire le mode de fonctionnement actuel du lieu. Au quotidien, les acteurs de chez Narcisse vont mobiliser le principe du DIY, aussi bien pour la partie bar que pour la partie concert. Alors, les différentes déclinaisons du punk se sont produites chez Narcisse, hein, street punk, anarcho-punk, punk rock, voire même pop-punk pour certains groupes, et les modalités de gestion et d'organisation du lieu se font ainsi le reflet de cette culture musicale qui alterne, comme le dit Pierre Rabou, hein, entre fun et mégaphone, autrement dit entre plaisir de l'instant et revendication politique. Et dans la continuité de ce système de la débrouille qui vise à faire autrement à côté, la recherche d'une indépendance à la fois économique, de programmation et de production fait de chez Narcisse un lieu de résistance à la culture de masse hégémonique. Ce bistrot de village n'est ainsi pas uniquement punk à travers la musique programmée, il l'est aussi à travers la valorisation du DIY comme valeur à défendre et projet à partager. Et les acteurs du lieu l'évoquent de diverses manières, d'ailleurs le terme de DIY est rarement utilisé tel quel, mais toutes ces manières traduisent une volonté d'exprimer collectivement, d'expérimenter collectivement, et c'est parfois évoqué sous l'angle de l'instinct. Le gérant dit « ça s'est toujours fait à l'instinct dans la programmation et au feeling dans les groupes. On n'a jamais cherché à prétendre être Narcisse sale comme ci, sale comme ça, le public vient lui-même et nous on suit ». Autrement dit, il n'y a pas de réflexion stratégique, commerciale ou marketing sur la gestion du lieu, mais une envie, en tout cas, d'une co-construction avec les habitués. Et l'utopie a souvent été pensée comme résultant de l'expression de conflits entre groupes dominants et groupes dominés. Et chez Narcisse, les expériences utopiques, qui visent à proposer une alternative musicale d'une part et d'autres façons de vivre ensemble de l'autre, apparaissent aussi sans doute parce que le contexte rural contribue à rendre difficile la création musicale et culturelle, l'offre étant d'emblée réduite hein, par rapport à un cadre urbain. L'utopie est alors, comme peut l'être le DIY, une nécessité. En réponse à un ordre politique et économique dominant qui modèle la culture musicale, il y a une grosse critique qui est exprimée envers les SMAC notamment, l'utopie narcissienne évoque la nécessité de l'indépendance et un rejet de la musique business est affiché. Je vous l'ai mis en anglais, mais je peux vous la dire en français, cette citation. Donc c'est le gérant, hein. Au tourneur, on leur dit, si vous voulez aller prendre un gros chèque dans une salle subventionnée, allez-y, on ne vous courra pas après. On s'en fout clairement et on vous emmerde. Si vous venez ici pour prendre de l'argent, vous n'êtes pas tombé au bon endroit. Ce n'est pas du tout de la musique business et il faut aussi que vous compreniez, c'est un sport d'équipe. Donc, en tant qu'expérimentation sociale, les utopies concrètes conduisent leurs participants à envisager d'autres façons de faire au quotidien. Chez Narcisse, la volonté de proposer un lieu particulier, qui n'est, je cite, « comparable à aucun autre », oriente et conditionne les sociabilités en jeu dans cet espace. Ainsi, l'utopie invite à remettre en question l'ordre établi, et il peut s'agir de proposer des alternatives, mais aussi de résister au quotidien. De la même manière, cette résistance n'est pas toujours exprimée ouvertement, mais elle se laisse deviner dans les choix qui sont faits, de vouloir fonder quelque chose ensemble, de rejeter les subventions publiques, etc. Chez Narcisse, c'est ainsi en écho à l'une des caractéristiques de l'utopie, un refuge pour ses habitués. Donc la construction d'un monde social dans lequel se partagent des valeurs et des idéaux, une recherche d'indépendance économique et une autonomie matérielle se laisse deviner. Donc ces manières de faire rejoignent les logiques illustrées par les travaux sur le DIY que l'on pourrait reformuler ainsi pour cet espace, by the narcissien, for the narcissien, ce qu'on entend habituellement, by the skater, for the skater. Donc néanmoins, la construction utopique au quotidien ne se révèle pas toujours possible et des limites apparaissent puisque des écarts existent entre les discours et les actions mises en place. Par exemple, la mairie apporte son soutien au festival de chez Narcisse, donc la dimension finalement, on rejette toute subvention publique est quand même un peu remise en question. Et pareillement, la résistance connaît des limites puisque chez Narcisse, comme ailleurs, le pass sanitaire est devenu obligatoire. Alors même si des tensions sont apparues dans l'équipe, on le demande pas. Oui, mais si on le demande pas, on ferme. Et si on ferme, on n'a plus rien. Donc voilà. Et ce qui laisse apparaître finalement, il me semble, des imaginaires de la résistance en acte davantage qu'une réelle résistance en continu. Néanmoins, le mode de fonctionnement de chez Narcisse est une manière de se distinguer d'autres espaces similaires. Il y a une volonté aussi de distinction par rapport à d'autres salles, d'autres bistrots qui peuvent être proches. Et l'utopie n'est ainsi ni exhaustive, elle ne concerne pas tout le monde. Donc certains peuvent ne pas jouer le jeu. C'est l'exemple que je vous avais donné en introduction sur ce chanteur qui ne jouait pas le jeu de l'utopie. Et elle n'est pas non plus immuable puisqu'elle change au cours du temps. Donc chez Narcisse apparaît néanmoins comme un espace marginal dans ce territoire rural parce qu'il repose sur une réflexion utopique construite à partir de l'histoire familiale, mais aussi sur les actes qui sont devenus des automatismes inscrits dans un temps long. Rejet du système bancaire, donc pas de prêt aux banques, défense de la culture en milieu rural, mise en avant d'un lieu de rencontre, etc., etc. Et donc ces façons de fonctionner traduisent des formes d'utopie concrètes, des démarches utopiques qui sont ancrées dans le temps long, donc depuis, on va dire 1892, mais en tout cas c'est une histoire qui est reconstruite évidemment, mais qui se revendique depuis 1892 et qui repose sur l'histoire du lieu. Et le second temps utopique que je voulais vous présenter, c'est davantage celui des concerts et qui est plutôt formalisé sous l'angle d'utopie éphémère. Alors les concerts chez Narcisse débutent les premiers groupes en 1986 et l'ancrage dans la culture punk se solidifie avec le premier gros groupe, entre guillemets, programmé, les Shérifs, le 1er février 1990. Alors, l'association Narcisse Culture Punk est souvent présentée par les acteurs comme un hasard. Ben, pourquoi Narcisse est une salle punk, c'est le hasard, on ne sait pas. Mais il semblerait plutôt, et il me semble, que l'histoire familiale de résistance associée au lieu est conduite à l'arrivée du punk chez Narcisse. Si l'utopie peut être pensée comme une rupture face à un ordre existant, alors le punk, dans sa philosophie qui vise aussi à suggérer des alternatives, notamment à travers l'usage du DIY, évoque clairement un cadre utopique. Et il me semble bien plutôt que la culture punk a trouvé en ce lieu un territoire d'expression qui lui était favorable, et l'arrivée du punk au Val d'Ajol correspond à une double entente. Les acteurs de l'époque se retrouvaient dans le mouvement punk, rejet de la musique business, etc., et les groupes punk se produisaient chez Narcisse, d'abord parce qu'ils étaient bien accueillis, et puis aussi parce que ce lieu leur permettait de compléter leur tournée, puisque chez Narcisse, les concerts sont le dimanche soir, donc ils les avaient moins chers, et ça leur permettait donc une certaine bonne entente s'est construite à ce moment-là. Alors, les soirs de concert sont aussi des moments d'expression d'une utopie concrète, notamment à travers l'abolition de la séparation spectateur-musicien, la participation du public sont des caractéristiques que le punk a empruntées au mouvement futuriste et qu'on retrouve chez Narcisse. Alors, on en parlait un peu tout à l'heure, la fusion n'est certes pas totale, il y a toujours une scène, et les musiciens sont toujours sur la scène, mais chez Narcisse, il y a un pacte tacite, c'est ce que je voulais illustrer avec l'exemple du début, où le public est au moins autant participant que le groupe, et quand ce pacte tacite n'est pas respecté, vous l'avez vu avec l'exemple, le groupe n'est finalement plus le bienvenu. Donc le mouvement punk a nourri l'utopie narcissienne, tandis que le lieu, par son histoire, a permis l'émergence de cette musique en contexte rural. Les alternatives en jeu chez Narcisse concernent également le rapport que les narcissiens entretiennent avec le temps, et ce sera le dernier point de ma présentation, puisque si l'utopie est intimement liée aux temporalités, elle a un mode d'être dans le temps présent, en relation avec le passé et le futur, et si le temps long permet de saisir les expressions utopiques au quotidien, le cadre des concerts permet la production d'utopies éphémères qui reposent sur une uchronie. Donc l'uchronie, c'est le hors-temps, la subversion des temporalités, qui favorise en retour l'apparition d'utopies réelles. Alors, petit extrait de plus court de carnet de terrain pour vous montrer un petit peu où je veux aller. À la fin d'un concert, le public se dirige massivement vers le côté de la salle et le bar. Les bières sont déjà tirées et les bénévoles qui sont derrière le comptoir parviennent à répondre aux demandes malgré le brouhaha ambiant. Essoufflée et fatiguée, une jeune femme, la trentaine, me fait un sourire et me dit « C'était bien, hein, mais on n'a plus 20 ans », sous-entendant ainsi la dimension physique du concert. Quelques dizaines de minutes plus tard, la salle se vide. Il est 23h, dimanche soir donc. Les derniers à rester disent qu'il faut en profiter car on ne vit qu'une fois. Les autres sont déjà partis parce qu'ils se lèvent tôt le lendemain. Le temps du concert prend fin et avec lui ressurgit le quotidien. Et cet exemple évoque la construction d'une temporalité propre aux situations festives chez Narcisse. Les concerts apparaissent ainsi comme des interstices dans le temps quotidien. Et les soirées musicales sont ainsi des espaces-temps qui permettent la mise en place de formes de jeux marquées par des règles informelles. Donc le jeu du pogo, le jeu de la scène, le jeu de l'habillement, etc., etc. Et à côté de ce temps festif, qui est le premier point qu'on voit apparaître, les concerts cristallisent aussi l'envie des acteurs d'être momentanément de grands enfants. Que ce soit du côté des musiciens qui rappellent être de grands ados, je cite, quand ils sont sur scène, ou des spectateurs qui deviennent des gosses dans la fosse, ces références au temps révolu de l'enfance exposent le désir de redevenir momentanément un enfant et de pouvoir retrouver aussi le passé d'une jeunesse qui s'éloigne. Et enfin, un troisième temps s'articule aux deux premiers au cours de ces soirées festives, c'est la question du futur, ou évidemment en lien avec la culture punk du no future. Et ce temps est double. Il est à la fois le temps d'une angoisse de l'avenir et celui d'un idéal à bâtir. Donc le premier fait écho, Natacha en a parlé, mais on retrouve ici la question du spleen de la poésie, notamment baudelairienne, qui est une référence au discours portant sur l'inéluctabilité du temps qui passe et qui cristallise les propos tenus sur la vieillesse ou la mort, on ne vit qu'une fois, l'ennui ou la mélancolie, hein, largement présent dans le répertoire musical punk. En réponse, l'utopie transparaît dans les paroles des habitués et des groupes lorsque sont évoquées des actions pour le futur. Comment changer finalement un futur qui apparaît comme sombre et que peut-on faire pour le changer ? Et on le voit notamment lorsque la culture punk chez Narcisse se transmet de génération en génération quand les quarantenaires, cinquantenaires viennent maintenant au concert avec leurs enfants. Ainsi, les concerts apparaissent comme des temps polychrones qui enchâssent une triple temporalité, donc qui permet de saisir l'uchronie punk et rurale de chez Narcisse. Et on voit apparaître donc des formes de bulles temporelles, si vous me permettez l'image, qui se superposent et les concerts produisent ainsi une uchronie. C'est un temps subversif qui est une alternative au temps rectiligne, modèle temporel dominant dans nos sociétés modernes, hein, l'idée du progrès. Et si des temporalités évidemment cycliques et linéaires coexistent dans notre quotidien, hein, le cycle des saisons ou pour le coup ici le cycle des concerts, le temps mesurable, découpable et unidirectionnel demeure celui qui s'impose dans notre culture occidentale, notamment à travers l'idée du progrès et de l'accélération technique et sociale, et je renvoie ici aux travaux d'Arcon Trossa. Donc dans cette perspective, les concerts apparaissent comme des réactions à ce temps hégémonique permettant la mise en œuvre d'un temps recomposé propre à l'utopie. Et ce temps effervescent permet la construction d'un autre ordre social qui n'est pas pérenne. L'uchronie est vouée à disparaître dès la fin du concert, mais elle permet la mise en place d'une utopie éphémère. Et donc pour conclure, chez Narcisse propose deux formes d'utopie concrètes qui se complètent au quotidien. La première est instaurée par la famille et transmise de génération en génération. Elle met en acte une alternative à l'offre culturelle et économique dominante à travers une indépendance reposant sur le DIY. La seconde est davantage éphémère, quelques heures, et perceptible uniquement les soirs de concert. L'inscription de chez Narcisse dans un contexte rural permet sans doute l'émergence de ces formes utopiques, puisque l'offre culturelle est limitée au regard de ce qui peut être proposé, par exemple, en milieu urbain. Et donc, ce qui explique aussi que les habitués sont fidèles à ce lieu, il n'y a rien d'autre. Donc, voilà, il y a aussi une dynamique de village qui est très forte. Donc, d'un point de vue micro-sociologique, cette utopie narcissienne, elle est évidemment constituée d'imaginaires qui sont aussi le résultat d'une narration familiale organisée autour des critiques de modèles existants et qui font d'une mémoire sur laquelle repose l'identité alternative du lieu. L'utopie située que l'on peut trouver chez Narcisse s'érige ainsi sur un imaginaire de la résistance et de l'indépendance, à la fois familiale et punk, réactualisé en permanence pour répondre aux demandes des acteurs du lieu. Néanmoins, les expériences de chez Narcisse apparaissent comme simplement, entre guillemets, des éclats d'utopie, j'emprunte cette notion à Peussin. Les utopies matérialisées demeurent en effet toujours partielles. Chez Narcisse n'est pas un espace fermé, ce sont des parenthèses dans la vie courante. Les gens ne vivent pas chez Narcisse, ce n'est pas un squat. Donc l'utopie narcissienne, pour ceux qui forment le collectif, est plutôt séquencée. À la différence donc, d'autres formes d'expérience utopique, chez Narcisse propose davantage une réalisation, voire une réaction utopique intermittente qui s'exprime lors des rassemblements, donc que ce soit au bar ou dans la salle. Ces réponses utopiques sont des réponses, des résistances face à un ordre hégémonique politique, culturel, économique, voire temporel. Il s'agit ainsi moins d'exposer une utopie permanente que d'identifier comment des expériences sociales et culturelles peuvent produire des fragments d'utopie. Ainsi, l'imaginaire utopique en jeu chez Narcisse inscrit bien ce lieu dans une culture de l'alternatif qui propose d'autres formes de liens sociaux en contexte rural. Et je vous remercie pour votre attention.
Bien. Merci Audrey pour cette belle ethnographie d'une scène rurale. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir aussi sur cette approche du punk global, justement cette articulation entre culture urbaine et culture rurale qui est essentielle. Et je rappelle d'ailleurs à cette occasion que le concert hommage à Schultz, il y en avait eu deux en France, un à Paris et un chez Narcisse. Donc ça montre bien quand même l'importance de cette scène. Et aussi dans l'imaginaire, et la connaissance aussi qu'en ont les acteurs de la scène punk, pour qui, en France, pour qui ce lieu est connu et constitue une référence. Voilà. Bon. Voilà, vous avez la parole, je crois qu'il y a sans doute beaucoup de choses à dire, de questions à poser, de précisions à demander. Allez, monsieur Pécou.
Merci Audrey. Tout à l'heure, on cherchait d'où venait le punk pour Philippe. Il vient du Val d'Ajol avec Narcisse. Il ne vient pas des États-Unis. Donc, quelques petites questions, parce que je ne connais pas bien cette salle, je n'y suis jamais allé. Oui, je sais bien. Et ça faisait loin de ma Normandie. J'irai, ne vous inquiétez pas. Je voulais savoir un petit peu ce que tu parlais de forme de résistance. Et donc ici, ça passe par la musique. Est-ce qu'il y a d'autres programmations culturelles que la musique qui seraient dans cette idée, des spectacles, du théâtre, on a vu des enfants, donc je ne sais pas s'il y a des spectacles pour enfants, etc., qui viennent appuyer un peu ces formes de résistance. Alors j'ai plusieurs petites questions. Est-ce que les propriétaires ont pensé peut-être à faire plus de concerts? Tu disais qu'il y en avait 6 ou 7 par an. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont envisagé d'en faire peut-être un petit peu plus parce que ça attire du monde, donc il y a quand même ça apporte de l'argent aussi. Donc, est-ce qu'ils ont pensé? Et troisième question, c'est... donc là, c'est un lieu rural. Bon, c'est 4000 habitants, c'est... Pardon, c'est une petite ville, mais il vient d'où ce public? Est-ce que toi, quand tu pour le connaître, est-ce qu'il vient justement de la grande ville d'à côté, Besançon, qui ferait qu'on passe du urbain au rural et non l'inverse, comme ça se fait beaucoup pour aller voir les concerts? Est-ce que voilà, c'est des habitants, c'est plutôt peut-être des urbains de Besançon ou de autour, ou vraiment les gens de la ville qui viendraient assister au concert ou boire des coups, etc. Donc voilà mes petites questions.
J'ai déjà oublié la deuxième, mais je vais reprendre par la première. Oui, il y a pas. En fait, j'ai pas développé, mais il y a pas que du punk chez Narcisse et il se diversifie de plus en plus, ce qui crée parfois, alors je dirais pas des tensions, mais des questionnements sur oui, mais est-ce qu'on ouvre pas à d'autres styles musicaux. Le mot d'ordre reste toujours quoi qu'il en soit. On veut programmer, c'est ce qu'ils disent, hein, des artistes qui ont des choses à dire. Donc il y a quand même toujours cette volonté de même si c'est pas punk, c'est on reste dans ce que eux nomment l'âme punk ou la punktitude, voilà. Et ils diversifient, oui, ils font des concerts pour enfants. Ils ont fait venir Pigalle en concert pour enfants. Ils ont fait venir aussi le groupe du chanteur d'Opium du Peuple, par exemple. Où l'idée c'est aussi d'ouvrir à d'autres choses. Et ils font notamment, ce soir, ils avaient programmé Aymeric Lomprey. Donc ils essaient d'ouvrir aussi à d'autres formes. Mais je pense que la situation sanitaire a joué sur le besoin d'ouverture autrement que sur les concerts debout. Et il y a aussi le festival. L'idée du festival, c'est de proposer un autre temps que le punk et que les concerts en salle. Après, clairement, ils savent que quand ils remplissent, c'est la scène alternative. Clairement, quand ils essayent d'ouvrir, ils ont essayé d'ouvrir un peu sur le rap. Voilà, ça marche moins bien parce que Narcisse est connu pour être une salle plutôt punk, donc ça marche moins bien. Je crois que la deuxième question, c'était sur le nombre de concerts, c'est ça, j'ai retrouvé en cours de route.
Nombre de concerts et puis d'où viennent les gens, le bassin de recrutement, en fait.
Alors, nombre de concerts, ils veulent pas parce qu'ils veulent que ça reste des temps exceptionnels. Ils le disent comme ça. Alors, il faut comprendre qu'en fait, le bistrot est géré par... C'est une entreprise et les concerts sont gérés par l'association. Donc, de toute façon, même l'association ne peut pas programmer plus de concerts parce qu'il leur faudrait une licence d'entrepreneur de spectacle, tout ça, mais ils veulent pas non plus pour pas épuiser leurs bénévoles. Et pour que ça reste exceptionnel. Et sur le public, alors au départ, le public est plutôt local, les habitués, les narcissiens. Alors après, on a vu apparaître les narcissiens d'adoption, ceux qui sont un peu plus loin. Alors le Val d'Ajol est assez caractéristique, c'est-à-dire que c'est dans les Vosges, mais en fait, c'est pas du tout les gens d'Épinal qui viennent, qui est la grande ville la plus proche en fait des Vosges. C'est plutôt de l'autre côté, c'est une ouverture plutôt sur la Franche-Comté. Alors pourquoi, je ne sais pas. On cherche encore cette réponse, je n'ai toujours pas.
Il y a la SMAC à Épinal, il y a la Souris Verte, donc il y a peut-être.
Ouais, d'ailleurs, ça pose des tensions aussi, ils essaient de se positionner. Oui, voilà, mais je pense que c'est aussi une réponse en termes de géographie. En fait, les Vosges, c'est des vallées enclavées au milieu des montagnes, et comme c'est ouvert du côté de la Haute-Saône, c'est plutôt les gens de Haute-Saône. Et depuis quelques années maintenant, depuis l'hommage à Schulz d'ailleurs, le public vient de plus loin, même des Parisiens qui viennent jusque là-bas pour des groupes, notamment le Bal des Enragés, qui a sa maison clairement là-bas, où le public dit nous, on veut voir le Bal des Enragés, mais on veut le voir chez Narcisse, on veut les voir chez eux. C'est assez intéressant. Et donc, quand c'est des groupes comme ça, le public vient de plus loin. Sinon, ça reste globalement autour locaux plus. Hein, mais
C'est intéressant parce que ça crée une autre forme d'utopie, tu vois, avec sur une autre dimension. Une projection un petit peu différente.
Et d'ailleurs, ça pose des questions parce que les narcissiens disent que l'ambiance change quand c'est pas le public de d'habitude. Alors c'est pareil, on pourrait travailler sur la rumeur, hein, comment les histoires se racontent, mais on m'a raconté plusieurs fois, oui, tu vois, au concert du Bal des Enragés, il y avait eu deux dates pendant une année, ils avaient eu deux dates, c'était complet, et sur la première date, les habitués n'avaient pas eu le temps de prendre leur place, puisque ça avait été pris d'assaut, alors par les Parisiens, évidemment il n'y a pas que des Parisiens, mais c'est le discours qui est raconté, et du coup, oui, mais tu vois, la première chanson, c'était bizarre, parce que tout le monde se regardait, et les gens, ils attendaient qu'il se passe quelque chose, et il ne se passait rien, et ils ne comprenaient pas. Et du coup, oui, mais les gens, c'est à vous de faire quelque chose si vous voulez qu'il se passe quelque chose, parce que c'était pas le même public, en fait. Donc, bon, ça, c'est les histoires qui se racontent, mais...
Merci Audrey. Alors, tu as d'autres mots, mais je me rends compte que mes travaux sont très, très, très liés à ta manière de poser les choses. Alors moi, je le dirais autrement, c'est cette articulation de double travail, de double vérité du travail que montrait Bourdieu, c'est-à-dire les conditions objectives, donc t'en parlais bien, le dimanche, l'effet que les groupes soient moins chers, donc la thune concrètement, et comment avec ces contraintes de thune, on crée des... Alors lui, il n'en parle pas comme ça parce qu'il n'était pas interactionniste, bien évidemment, mais Perronou, il en parle, on en a parlé hier, de dramaturgie sociale et de dire que, enfin, en reprenant Menger, mais en disant qu'il crée collectivement aussi des conventions. Alors moi je le dis autrement, toi tu parles d'imaginaire, mais je pense qu'il y a des mots-clés que je vais te citer à mon avis. D'ailleurs je suis bien chaud pour prendre ta bibliographie aussi là-dessus. Mais Je trouve que cette articulation entre ces doubles vérités du travail sont hyper féconds pour analyser ce qui se passe, hein, comme tu l'as fait. D'ailleurs, ce lieu-là m'a fait penser à plein d'autres lieux dans lesquels j'ai joué. Alors, moi, bien sûr, connu, hein, mais notamment à Tarbes, là, le Celtic Pub, celui-là, bon, c'est un peu le même genre de truc. Même si c'est plus ouvert, quand même, il y a moins cet ancrage culture punk. Alors, moi, j'ai une question, parce que j'ai fait aussi une monographie il y a un an. Je l'ai publié sur Aki, la revue Aki, avec toi notamment, sur une salle qui a fermé, le dernier club du centre-ville de Bordeaux, donc en proie à la spéculation immobilière. J'ai essayé de montrer comment justement la mairie qui s'était posée comme médiatrice avec la préfecture, de litige qu'il y avait avec la préfecture, qui imposait elle la main droite de l'État, du coup régalienne, etc. On va dire régalien, mais... Bref, et en s'appuyant aussi sur les locaux, enfin en disant qu'ils foutaient du bordel alors que c'était pas forcément vrai, mais bon, bref. Je me suis rendu compte qu'en faisant cette monographie, le fait qu'ils ouvraient leur salle pour pallier aux contraintes économiques, justement, à d'autres scènes, donc électro, etc., donc ça la permettait pendant un temps de survivre, effectivement, mais je me suis dit que c'était un facteur aussi d'hétéronomie de la culture punk, de l'espace, parce que ça permettait à ces autres esthétiques de pouvoir avoir accès à des lieux, effectivement, où là, réellement, se peut pouvoir jouer. Et donc, du coup, je me posais cette question-là. Alors, dis-moi ce que toi, t'en penses, mais est-ce que... moi, j'y vois clairement, comment dire, une dilution de la culture punk, de cet imaginaire punk, dans d'autres espaces. Et je me demande si quelque part il n'y a pas un problème effectivement là de facteur d'hétéronomie, hein, de cette autonomie très très fragile du punk français, quoi.
Oui, il y a une espèce de dilution en fait. Le fait d'ouvrir la scène narcissienne à d'autres groupes, ça va diluer un petit peu les caractéristiques du punk initial tel qu'il était là. Après, je ne sais pas quelle direction ils vont vouloir prendre, mais il y a cette envie d'ouverture. Mais je pense que c'est lié à au cadrage de l'utopie, justement, ouvrir. Et le discours qui est tenu, c'est « oui, mais les punks, c'est toujours les mêmes qu'on programme, c'est bien et tout, mais ce serait bien que les gens du village, entre guillemets, ou les habitués, découvrent aussi d'autres styles ». Enfin, c'est pas du tout normatif, hein. C'est pas pour imposer, mais c'est pour se dire, voilà, on va s'ouvrir aussi à d'autres choses, on garde l'ancrage punk, parce que de toute façon, c'est ça qui fait l'identité de la salle, mais aussi, on veut ouvrir à d'autres choses. Mais les discours sont assez ambivalents, parce que y a, on veut ouvrir à d'autres choses, ça marche plus ou moins, ça dépend quoi, mais il y a cette idée, oui, mais quand même, on va faire un pour la réouverture, dès qu'on pourra, on va faire un week-end punk. Et sur le festival, on veut ouvrir aux musiques du monde au sens très large, etc. Mais la tête d'affiche, on veut que... Enfin, une, il y a trois jours, mais on veut qu'une des têtes d'affiche, ce soit Ludwig. C'est pas n'importe qui non plus. Enfin, voilà. Donc, la tête d'affiche d'il y a deux ans, c'était Tagada. Donc, on retrouve toujours cette même scène. Donc, ça se dilue, mais ça reste quand même présent. Et je pense que ça participe... Et là, je pense qu'il y aurait un écart entre les discours des bénévoles, de l'asso, des gérants et des habitués punk, entre guillemets. Où là, y a une marche, en fait, qui n'a pas été franchie encore.
Moi, j'avais une question de... Je te donne la parole après. Hein, d'historien. Ah ben, je me la donne de temps en temps. Sur la documentation, enfin, les archives, c'est-à-dire, en fait, est-ce que justement, bon, disons depuis le concert des années 90 des Shérifs, est-ce que tu as pointé toute la programmation et regardé un petit peu, enfin, je ne dis pas qu'il faut catégoriser, mais puisqu'on parle d'une scène punk, ou en tout cas telle qu'elle se représente à elle-même, est-ce que clairement, voilà, ça confirme en fait, est-ce que l'archive de manière très positive confirme ce que les gens s'imaginent être en fait l'identité de la salle? Ça, c'est ma première question. Et puis, après, pour rebondir sur ce que disait Manu, bon, c'est quand même toujours le problème de ces lieux. Et je ne pense pas que des scènes indépendantes, d'arriver à jouer sur un équilibre entre ce qu'on a envie de faire et en termes de défense d'identité, et après, le modèle économique, en fait, hein, c'est-à-dire la programmation. Qu'est-ce qui fait que, justement, pour défendre cette identité, on est obligé, alors, soit d'élargir de manière positive, soit de manière contrainte, hein, de faire avec d'autres, hein. Voilà.
Alors oui, sur les archives, il y a tout un tas de documents éparpillés partout, mais on a les affiches, donc qu'on avait commencé à numériser avec Pierre, que j'ai continué toute seule, plus de 200 affiches de groupe, qui sont toutes numérisées pour l'instant, mais je n'ai pas du tout le temps de les travailler. Par contre, j'ai tout le fichier Excel. Ils avaient tenu à jour tous les groupes qui sont passés. Mais je n'ai pas le temps de me pencher dessus. Mais globalement, on voit qu'il y a des récurrences, des groupes qui reviennent régulièrement. C'est toujours les mêmes. Et voilà. Mais j'ai pas commencé encore.
C'est ça, parce que cet après-midi, il y aura une com sur la miroiterie où il y a eu un travail comme ça aussi de pointage. Et c'est intéressant de regarder. Bon, donc c'était Monique.
Monique, donc pour Radio Éphémère, on a eu le plaisir d'être sur la journée au Val d'Ajol. Ça a été épique. Bon, c'est un lieu très fort. Effectivement, j'aimerais revenir sur l'économie du lieu et sur la question des financements publics, parce que je me rappelle avoir interrogé le maire du village. D'ailleurs, les jeunes m'avaient dit posez-lui la question, parce qu'il dit qu'il nous soutient. En réalité, il soutient l'association, puisqu'il ne peut pas soutenir... voilà. Mais à hauteur de combien, à l'époque, c'était assez dérisoire, je crois. C'était un soutien symbolique. Les gérants, enfin, le tandem me disait, oui, il affiche un soutien, comme ça, ça veut dire qu'il y a une forme de tolérance de notre existence dans le village, et en même temps de valider... le fait qu'il y a une économie, que ça rapporte, ça fait venir du monde, ça fait travailler les commerces, enfin tout ça. Je voulais savoir si le soutien avait augmenté depuis notre passage, et puis où en est leur économie par rapport à la situation actuelle et leurs perspectives, parce que bien évidemment, ce sont des lieux fragiles par rapport au contexte actuel, quoi. Mais voilà, la question des financements publics, est-ce que ça a pu évoluer? Est-ce qu'ils ont pu se ressourcer ailleurs en termes d'aide ou de subventions autres, je ne sais pas.
Alors, la mairie a changé entre-temps. et c'était assez intéressant puisque le bistrot était le lieu, le QG de campagne de l'opposition. Dans opposition dans laquelle les acteurs du lieu avaient mis pas mal d'espoir. Et récemment, voilà, ils ont dit oui, de toute façon, ils étaient bien contents de nous trouver pour la campagne. Et puis maintenant, ils nous ont oubliés. Il y a une subvention qui est relativement dérisoire à l'association. Après, il y a quand même, la mairie accepte que pour le festival, il barre complètement la rue, qui est quand même une des rues principales du Val d'Ajol, donc c'est pas une petite rue perdue. Donc pour la mairie, c'est aussi une forme d'engagement. Et puis là, ils aimeraient, pour le prochain festival, que la mairie leur laisse le terrain de foot, le camping, etc., etc. Donc les subventions économiques, pas tellement. Maintenant, il y a quand même un soutien qui est clair, de la mairie. Après, la mairie soutient pas parce que c'est la culture punk, la mairie soutient parce que ça fait vivre le village. Parce qu'évidemment, ils jouent le jeu aussi en allant pour proposer à manger, en allant prendre chez les bouchers du coin, etc. Donc là, on est dans la dynamique du village. C'est pour ça que la mairie soutient, clairement. Après, non, ils ont, à ma connaissance, ils n'ont pas cherché d'autres financements ailleurs. Et la situation actuelle est complexe, mais ça va parce qu'il y a le bar. Et que du coup, comme c'est dissocié, voilà. Après, ça va parce qu'il y a le bar, mais le gérant ne s'est pas pris de salaire depuis plus d'un an et demi. Hein, donc, en fait, ils survivent parce qu'ils sont propriétaires des murs, qui sont là depuis 125 ans bientôt, et que voilà, ils n'ont pas à sortir ni de salaire, ils se débrouillent autrement, ni de loyer, ni quoi que ce soit. C'est leur histoire familiale qui leur permet d'être encore ouvert, sinon je pense qu'ils auraient fermé. Oui,
merci. Toujours pour Radio Éphémère au sens large. Pour revenir aussi sur cette question d'un acteur majeur de la scène punk dont on ne parle pas assez, je trouve, ici et ailleurs, et qu'on ne voit plus parce qu'il est masqué, parce qu'il est de plus en plus volatile. Je parle du public. Mm-hmm. Voilà. Alors, dans le cas particulier de chez Narcisse, est-ce que tu dirais que le public, enfin, tu y as partiellement répondu, est venu parce que culturellement autour il y avait quand même un grand vide, ou est-ce qu'il y aurait un processus d'éducation entre parenthèses qui ferait que le public s'est renouvelé et a été acquis petit à petit, quoi. Ouais, et autre question comme ça, est-ce qu'il y a une opposition locale, je veux dire des voisins qui gueulent parce qu'il y a trop de bruit, quoi.
Alors, ouais, sur le public, ils sont venus parce qu'au départ, dans les années 90, ils sont venus parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et en fait, c'est devenu une habitude, c'est-à-dire que comme c'est vraiment un lieu de village, les jeunes du village, les lycéens, ils viennent boire un coup chez Narcisse. Alors, il y a d'autres bars, hein, dans le village, il y a le bar des sports, où c'est pas le même public, et puis il y a le bar des jeunes où ils vont, mais en fait les jeunes font des circuits, il y a les trois bars et en fait ils font les trois bars, et souvent les trentenaires me disent mais moi j'ai commencé à venir chez Narcisse au bistrot avec mes parents et puis après je suis venue dans la salle, et voilà. Donc il y a une habitude qui est donnée en fait aux jeunes qui commencent par le bar et qui se poursuit effectivement dans la salle. Donc il y a une espèce de transmission intergénérationnelle, et aussi parce que ben, il n'y a que ça, et le dimanche soir, il n'y a que ça d'ouvert au Val d'Ajol. Donc c'est aussi, on va là, et puis on y reste. On y arrive parce que c'est ouvert, et finalement on voit la lumière et on reste un petit peu ça. Et puis la deuxième question, je l'ai oubliée en cours de route, c'était quoi ?
L'éducation du public ?
Ben, oui, je pense qu'il y a... Ah oui, sur les voisins. Oui, ça y est, pardon. Ça va mieux maintenant, mais ça a été difficile pendant très longtemps, au sens où ils expliquent que, bah oui, les gens venaient regarder quand Parabellum, un des premiers gros concerts aussi, après les Shérifs, ça a été Parabellum, où là même les gens de l'organisation de chez Narcisse à l'époque nous ont dit, mais nous, on s'est dit, là, mais c'est quoi tous ces punks qui débarquent avec les rats dans les épaules, etc. Et on les voyait arriver avec les crêtes, et on n'était pas du tout préparés à ça, ils venaient tous de Lyon, on ne s'attendait pas à ça, et voilà. Et à partir de ce moment-là, les gens passaient et ils guettaient dans la salle en disant, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ces drogués, etc. Donc en fait, ça a fallu très longtemps pour qu'ils ont eu plein de fermes par la mairie successive dans les années 90, et ça a été très très long avant de faire accepter ce travail-là. Aujourd'hui ça va mieux dans le village, puisque Narcisse est une institution, et ils ont joué aussi parce qu'ils prêtent la salle pour les pots d'enterrement notamment, et du coup ça inscrit le lieu dans la vie quotidienne du village, et par exemple les plus âgés du village viennent chez Narcisse pour la première fois à un pot d'enterrement et se rendent compte que ben, en fait c'est un lieu tout à fait accessible et normal entre guillemets, et que non, il n'y a pas des seringues et des canettes partout par terre tout le temps, et en fait ils découvrent aussi comme ça, même à 80 ans ça me dit, mais lui il avait 80 ans, il n'était jamais venu, il est venu là pour la première fois, et il aurait dit, on est sur les rumeurs, mais il aurait dit, si mes parents me voyaient ici, qu'est-ce qu'ils penseraient. Et donc il y a ce, alors ils le disent, voilà, ça a été très dur au début, mais maintenant ça va beaucoup mieux en fait. C'est toléré. Après l'idée, voilà, ils aimeraient bien racheter la maison d'à côté justement pour que les voisins soient plus trop proches. Et puis, mais en fait la salle est dans le fond du jardin, donc en réalité, et les concerts terminent à 10h. Donc il y a ça aussi, il y a l'obligation de finir à 10h, ce qui fait que ça reste relativement raisonnable. C'est un compromis.
Et sur la gestion là de la pandémie, ils s'en sortent comment? Juste pour
C'est compliqué. C'est compliqué, à la fois les concerts. Alors les concerts ont repris, ils ont fait un concert pour enfants en septembre-octobre. Il y a eu les têtes raides qui sont passées le mois dernier, donc c'était avec passe sanitaire, sans masque.
Est-ce que tu évoquais justement cette question du passe sanitaire, ouais, qui est quand même très très clivante, ouais, ouais, dans le monde punk en général, hein, parce que... Mmh. Les positions se sont vraiment radicalisées, sur la question justement de finalement est-ce qu'on reste un lieu punk si on exige par exemple le pass sanitaire,
c'est la question qu'ils se sont posées. En fait ils sont pas d'accord dans l'équipe entre ceux qui étaient là au tout début, qui ont monté la salle, etc., et qui disent non mais on s'en fout, on demande pas, voilà, et puis très clairement les gérants qui disent oui, mais parce que la police vient régulièrement, enfin les gendarmes, on est un petit village, hein, les gendarmes ils sont à 200 mètres, hein, donc ils viennent, ils sont pas pénibles plus que ça, mais ils viennent faire leur boulot de gendarme, et du coup les gens disent, mais oui, mais si on ne demande pas les passes, on ferme, et si on ferme, on n'a plus rien. Donc c'est assez clivant, pour mais là ils sont clairement rentrés dans la norme, entre guillemets, de demander le pass sanitaire, clairement. Après, ils vérifient pas l'identité, ils vérifient, voilà, mais oui.
Bien, ben merci Audrey. Je crois qu'on peut réapplaudir. Bravo.